La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. C'est une fonction vitale, elle fonctionne automatiquement de jour comme de nuit, elle synchronise notre cerveau, il s'agit de notre respiration, notre vie est rythmée par l'action de nos poumons qui se gonflent et se dégonflent, le souffle et le cerveau si étroitement liés que la respiration d'ailleurs a une influence directe sur notre psychisme. Comment respirons-nous? Comment le souffle synchronise le cerveau, dissipe le stress? Comment soulager les maladies respiratoires? C'est le dossier de l'émission dans un instant, en partenariat avec Cerveau et Psycho, avec nos invités qui vont bien sûr répondre à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, c'est l'effervescence autour d'un petit caillou en ce moment avec le tout premier atterrissage de l'histoire sur un astéroïde.
Oui, c'était samedi dernier. La sonde japonaise Hayabusa a largué deux petits robots à la surface de l'astéroïde Ryugu. Et mercredi prochain, ce sont les Européens qui tentent leur chance. On croise les doigts pour ne pas trop rebondir.
C'est et les doigts. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Fanny Boyon réalise l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, nous irons au cœur de notre respiration dans un instant. Dossier de la tête au carré avec mes invités, le pneumologue Thomas Simolowski et Sébastien Boller. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue Thomas Simolowski. Qu'est-ce qui est le moteur de notre respiration? Qu'est-ce qui alimente cette soufflerie intérieure alors?
Eh bien, c'est notre cerveau, aussi curieusement que ça puisse paraître. Et si les gens qui nous écoutent veulent avoir la compréhension très facile, je vais leur demander d'arrêter les battements de leur cœur quelques secondes. Évidemment, il y a, je l'espère, très peu de succès
oui,
dans l'auditoire.
Vous m'inquiétez là tout d'un coup.
Et maintenant, d'arrêter de respirer. Et ça, c'est très facile.
Ça, c'est possible.
Ouais. Et donc ça, c'est la réponse à votre question. C'est le cerveau qui gouverne la respiration. Alors, une partie automatique, une partie volontaire, on y reviendra, je pense.
Ouais, Sébastien Boller, le souffle et le cerveau, c'est indissociable?
Totalement, oui. C'est quelque chose qui, effectivement, on vient de le dire, et peut-être pas intuitif, parce que quand on parle de respiration, on le voit très bien autour de nous, voilà, la culture populaire sur la respiration, la relaxation, on se dit, voilà, c'est le corps, c'est l'esprit, mais quand on va en détail regarder ce qui se passe, on voit que c'est des nerfs, c'est des connexions, c'est des commandes nerveuses, c'est des interactions très précises, et c'est assez magnifique de commencer à projeter comme ça son regard dedans, c'est un peu la première fois qu'on avait décidé de le faire.
Et puis nous aurons en ligne depuis Papeete le double champion du monde d'apnée, Guillaume Néry, qui nous parlera bien sûr de sa pratique de l'apnée. On se retrouve dans un instant avec les questions des auditeurs. Axel, à la une de la science aujourd'hui, donc cette mission Hayabusa 2 Masco, une collaboration spatiale entre l'Europe et le Japon, pleine de rebondissements.
Ça on peut le dire, oui Mathieu, puisque samedi dernier, l'agence spatiale japonaise a largué deux petits modules robotisés sur l'astéroïde Ryugu, à 230 millions de kilomètres de la Terre. C'est une première dans l'histoire et une réussite, mais ce n'est que le début pour la mission, puisque mercredi prochain, la France et l'Allemagne tenteront de poser leur propre module, Mascotte, un petit cube bourré de science, très agile, qui a pour mission d'analyser la surface de l'astéroïde pendant 15 heures. Mais ça, c'est seulement si les rebonds à la surface sont favorables.
Approche.
Allez, on va revenir au sérieux et pour comprendre cette mission internationale très originale, on reçoit Aurélie Moussy, pardon, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur en astrophysique et chef du projet Mascotte pour le CNES. J'imagine que vous avez suivi de près la réussite des Japonais samedi dernier. Est-ce que la méthode d'atterrissage pour Mascotte va être la même, c'est-à-dire rebondir mais le moins possible?
Alors ça va être légèrement différent, mais dans les grandes lignes, on va suivre à peu près la même procédure. On va être largué à la même altitude, qui est très très bas, hein, c'est du razmot. Le satellite Hayabusa 2 va nous larguer à 55 mètres d'altitude.
Ah oui?
Oui, là c'est, on n'a pas vraiment le temps de réaliser ce qui se passe. C'est une chute libre, de la même manière que pour les petits démonstrateurs Minerva qui ont été faits la semaine dernière. Ensuite, on est beaucoup plus gros. Mascotte fait 10 kilos. Comparé à 1 kilo par Minerva. Donc on va avoir un mouvement différent pendant la descente et des rebonds différents parce que la forme est également différente. On parle d'un cube plutôt que de petit cylindre.
Mais pourquoi est-ce qu'on rebondit autant sur Ryugu alors?
Alors À cause de la gravité.
Elle est très très faible.
Elle est très très faible. En fait, Ryugu est très petit comme corps céleste. Il fait à peine 900 mètres de diamètre, hein, donc 3 Mont-Saint-Michel à peu près. Hein.
Oui.
Donc pas de quoi nous attirer à lui. Donc il suffit d'une toute petite pichenette pour décoller. Notre petit mascotte qui va entrer en collision entre guillemets avec la surface va forcément rebondir.
Donc il va faire dong dong comme on a entendu exactement à l'instant en fait.
Et exactement, ouais. Sauf qu'il n'y aura pas de son, mais
on peut l'imaginer.
Ouais. Aurélie Moussy, est-ce que ça veut dire que le site d'atterrissage est parfaitement aléatoire?
Alors non, pas parfaitement aléatoire. Partie d'un process assez compliqué, où le CNES a été particulièrement impliqué dans ce process. Il faut d'abord trouver un site qui convienne à tout le monde, scientifique et ingénieur. Mmh. Donc qui ne risque rien, je vais simplifier, qui ne risque rien pour la technologie et qui contente toutes les équipes scientifiques, sachant qu'elles ont toutes des objectifs différents. Donc c'est un peu le mouton à cinq pattes qu'on a dû chercher.
Alors si on décrit un peu mascotte, au final c'est assez simple, hein, c'est un cube de 10 kilos bourré de science et qui va tenir 15 heures sur place avec ses batteries. Quel est son programme? On va dire qu'il est stabilisé, allez, on est la semaine prochaine.
C'est ça, voilà. On a travaillé quelques années, on a tout préparé et il a une seule chance en fait parce qu'il est alimenté par une pile qui, de toute façon une fois vide, ne servira plus à rien. Et une fois posé... Si on a de la chance qu'on a au jeté de dés, on a fait un 6 directement, et ben c'est fantastique, on va pouvoir directement opérer les instruments et directement avoir de la science.
Ouais.
S'il est posé sur une face qui ne nous arrange pas, avec les instruments qui ne sont pas forcément en contact avec la surface, il va falloir utiliser le petit mécanisme de mobilité qu'il a à l'intérieur pour se repositionner. En fait, changer de face jusqu'à tomber sur celle qui nous arrange.
Donc, c'est pas comme une tortue, lui, il peut se retourner.
Lui, il peut se retourner, oui. C'est un peu plus facile que pour une tortue, je pense. On espère, croise les doigts.
Et le scénario idéal pour vous, mercredi prochain, c'est quoi sur ces 15 heures? Qu'est-ce qu'on fait pendant 15 heures?
Alors, le scénario idéal, c'est une descente rapide, très peu de rebonds, comme ça on économise de l'énergie. Ensuite, on est posé à un site et on opère pendant une journée, une nuit sur Ryugu, à peu près 7 heures.
Mmh.
Puis on change d'endroit en rebondissant,
on
refait des Boeing, ouais, jusqu'à atterrir à un autre endroit et on refait une série d'analyses scientifiques pour une journée, une nuit.
Mais les analyses, c'est quoi exactement? Vous allez rapporter des échantillons de tout ça?
Alors non, Mascotte, c'est l'éclaireur pour justement Hayabusa qui va récupérer des échantillons. Mascotte, c'est le laboratoire embarqué qui va être le seul à analyser le sol directement sur place. C'est ce qu'on appelle la réalité terrain. Donc on va chercher à avoir une composition du sol, une structure du sol, sa réponse à l'éclairement, à quelle vitesse il se réchauffe pour en tirer des infos sur la structure interne.
Examen préparatoire finalement.
Voilà.
Ah ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mission à tiroir en fait, parce que là vous allez en éclaireur de la grosse sonde qui est en orbite et qui va arriver avant la fin de l'année, qui va elle aussi essayer de s'approcher pour prélever des échantillons. Sa mission c'est quoi? C'est repartir avec?
Exactement, la mission d'Hayabusa 2 c'est avant tout un retour d'échantillons vers la Terre. Donc là on est presque à la limite de la science-fiction. Le satellite va aller, qui ressemble un peu à un gros insecte avec une trompe,
ouais,
va aller butiner la surface de Ryugu, va récolter 3 fois des échantillons entre cette fin d'année et la fin 2019 et les rapporter sur Terre à bord d'une capsule. Un peu comme Thomas Pesquet dans sa capsule. Bon, elle est beaucoup plus petite celle-là et il n'y a que de la poussière à l'intérieur.
Et ça aussi, si ça réussit, ce sera une première.
Tout à fait. En fait, les Japonais ont déjà fait un exercice préparatoire, on va dire, avec Hayabusa 1, mais ils ont amélioré tout leur système pour que cette fois-ci, on arrive à récupérer beaucoup de matière.
Alors depuis quelques mois, la sonde se rapproche. Là, il y a 2 modules japonais qui sont arrivés samedi. Ça veut dire que vous avez une idée des conditions qui vous attendent mercredi. Est-ce que vous êtes rassuré ou plutôt inquiète?
Alors là, on attend beaucoup d'infos de nos collègues japonais.
Oui.
Pour l'instant, ça nous a plutôt rassuré parce que ce qu'on sait, c'est qu'ils ont rebondi. Donc ils se sont pas enfoncés dans le sol. Donc on peut espérer que Mascotte rebondisse aussi et se retrouve pas coincé dans le sol.
On vous le souhaite aussi.
Aurélie Moussy, on fait une émission sur la respiration, donc si vous voulez apprendre à bien respirer pour préparer mercredi, hein, vous pouvez rester avec nous. Vous êtes
Merci,
la bienvenue. Oui, on pensera à vous, en tout cas, et on va suivre évidemment ce qui se passe, pour voir si les rebonds sont bien réalisés. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Je rappelle que vous êtes astrophysicienne et chef donc de ce projet Mascotte pour le CNES. Merci Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique et toujours dans l'espace, à 22 ans, le lanceur européen Ariane 5 a fêté donc hier son 100e vol, parti de la base de Kourou en Guyane. Il a parfaitement mis en orbite deux satellites de télécommunication, fiables mais un peu lourdes quand même. La fusée européenne n'a connu que deux véritables échecs en 22 ans de carrière. Mais la retraite est pourtant programmée car Ariane 6, plus polyvalente, devrait prendre sa place d'ici 5 ans au maximum. 500 ans d'exploitation humaine ont détruit plus de la moitié des espèces de la forêt atlantique, ce biome tropical humide qui s'étend sur la côte est du Brésil et du Paraguay. En comparant les données historiques et fossiles, les chercheurs montrent que l'agriculture et la foresterie, qui ont commencé dès le XVIe siècle, ont eu un impact dès le début, avec bien entendu une accélération très importante depuis 50 ans. Les grands mammifères et les prédateurs sont bien sûr les plus touchés car ils sont en concurrence directe avec l'homme sur ces territoires. Et puis pour terminer, retenez son nom, Vorombe Titan. Il s'agit du plus gros oiseau qui ait jamais foulé notre terre. Il vivait à Madagascar il y a 10 000 ans et pouvait peser jusqu'à 800 kilos. Des fossiles de ces oiseaux sont découverts régulièrement depuis plus de 100 ans. Mais c'est seulement dans une publication datée d'aujourd'hui que les paléontologues sont finalement tombés d'accord sur le nom à lui donner. Ce sera donc Vorombe Titan, qui est un mélange de malgache et de grec et qui veut simplement dire gros oiseau. Merci les gars. Allez, dans un instant, respiration, c'est le dossier de l'émission. Il s'appelle The Lemon Twigs avec Small Victories à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà un dossier qui va nous faire du bien et qui va nous permettre de comprendre la respiration, hein, tout simplement, puisqu'avec nos confrères du magazine Cerveau et Psycho, qui consacrent leur une justement, nous allons explorer les pouvoirs de la respiration. Et avec nous, Thomas Similowski, vous êtes pneumologue et directeur donc de cette unité de recherche neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique, c'est à l'INSERM. Vous êtes également vice-président de la Fondation du Souffle, qui sensibilise le public aux maladies respiratoires. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de l'unité de recherche alors ?
Notre unité de recherche, moi je me plais souvent à dire que je suis le pneumologue qui s'intéresse le moins aux poumons, paradoxalement, parce que notre unité de recherche est consacrée à toutes les relations qui peuvent exister entre le cerveau et la respiration, alors dans les deux sens, du cerveau vers la respiration et de la respiration vers le cerveau. Donc ça comprend comment fonctionne la respiration, les automatismes, la commande volontaire, et puis aussi comment fonctionne ce qu'on appelle la souffrance respiratoire, c'est-à-dire quand ça marche pas, eh bien ce sont les poumons qui sont malades, mais c'est le cerveau qui vous fait souffrir.
Ouais. Les pathologies justement de la respiration, elles sont nombreuses,
hein ? Elles sont très nombreuses. Ah ouais. Elles sont très nombreuses. Elles concernent près de 10 millions de Français. La plus célèbre, c'est l'asthme.
Ouais.
Mais il y a aussi des maladies liées au tabac. On appelle la BPCO. Elle est très méconnue. BPCO, ça veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie qui est liée à la destruction de vos bronches et de vos poumons, surtout par le tabac.
Oui, donc c'est très important, effectivement, hein, comme problème lié à la respiration. Et Sébastien, justement, avec Cerveau et Psycho, nous allons tout à l'heure avoir en ligne Guillaume Néry, hein, qui est champion du monde d'apnée. Alors lui, c'est vraiment la maîtrise, justement, de la respiration. Alors c'est vrai que vous évoquez souvent dans Cerveau et Psycho la respiration par le biais de la méditation, par exemple. Mais là, c'est vraiment un autre axe que vous avez choisi, hein, pour ce numéro.
Exactement. En fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que depuis des années, on traite ces sujets liés à la méditation, liée à la relaxation, sous l'angle purement cognitif. Ouais. Et puis, souvent, on entendait que la respiration revenait comme un outil vraiment privilégié pour accéder justement à cette discipline cognitive. Et finalement, le rôle de la respiration, l'impact qu'elle avait directement sur le fonctionnement du cerveau, était pas vraiment abordé. Et on rangeait ça toujours un peu dans l'imaginaire collectif, dans une case un peu ésotérique comme ça. Et c'est vrai que les connaissances scientifiques de pointe sur les interactions entre le cerveau et la respiration, elles sont pas très connues. Et on a décidé de fouiller, et puis là on est tombé effectivement sur les travaux qui se font, et là on voit un monde s'ouvrir, je crois, qui est assez nouveau pour beaucoup de gens.
Ouais. Extraordinaire en tout cas, parce que c'est vraiment une autre façon justement d'approcher et de comprendre, hein, ce qui se passe précisément quand on est dans cet état conscient de la respiration. Et c'est vrai que la première question, Thomas Similowski, qu'on peut se poser, c'est finalement comment est-ce que nous respirons exactement alors ?
Alors comment est-ce que nous respirons ? On vous l'avait dit au début, c'est une fonction végétative, elle est automatique, elle marche le jour, la nuit, etc.
Ouais.
Et elle vient, contrairement aux autres fonctions végétatives, qui sont, j'allais dire, en elles-mêmes. Hein, dans le dossier de Cerveau et Psycho, il y a cet exemple du film Indiana Jones, c'est le temple maudit, où on voit le cœur arraché qui continue à battre dans la main du gourou. Si vous faites ça avec les poumons, ça marche pas, ils bougent pas. Donc on respire parce qu'il y a des muscles qui se contractent. Le principal d'entre eux, c'est le diaphragme. Mais ces muscles se contractent parce qu'ils reçoivent des ordres. Et ces ordres viennent du cerveau. Une toute petite partie du cerveau qui est située dans ce qu'on appelle le tronc cérébral, c'est un cerveau très ancien qui commande beaucoup de fonctions automatiques. Et cette respiration automatique, elle est commandée par quelques centaines de neurones, des tout petits groupes de neurones qui fonctionnent de façon rythmique et oscillatoire automatique.
Donc ça, c'est le moteur, on pourrait dire.
Ça, c'est le moteur. Hein. C'est le moteur de base. C'est le moteur automatique.
Ouais.
Et automatique est régulé. Si vous avez besoin de respirer plus, parce que vous faites un effort, par exemple, eh bien, ce centre respiratoire du tronc cérébral va le sentir et va adapter la respiration au besoin d'apporter de l'oxygène et surtout d'éliminer du dioxyde de carbone. Ça, c'est l'automatisme.
Donc le cerveau, c'est le poste de pilotage de la respiration ?
Absolument.
C'est de là que tout démarre, finalement.
Pilote automatique.
Ouais. Et les poumons, alors ?
Alors, les poumons, eux, ils suivent. C'est-à-dire que les muscles se contractent. En se contractant, ils font gonfler la cage thoracique, des articulations, hein, entre les côtes, la colonne vertébrale. Et puis le poumon, il est attaché par des enveloppes qu'on appelle la plèvre, et il suit. Il suit passivement.
Ouais. Et alors, le souffle, ça commence quand dans la vie, finalement ?
Alors, ça, c'est une chose extrêmement importante. Et le titre Cerveau et Psycho, le titre du magazine, va bien avec ça, et on en parle. Finalement, notre respiration, bien heureusement, hein, on s'en aperçoit pas. Vous ne vous rendrez pas compte que vous respirez. Vous n'avez pas du tout envie de recevoir ces milliers d'informations qui montent à chaque fois.
Ouais.
Mais c'est quand même une préoccupation. Et elle commence le jour de votre naissance.
Ouais.
Et finalement, si on va parler tout à l'heure des maladies respiratoires, de ce que nous, en jargon, on appelle la dyspnée, c'est-à-dire l'essoufflement, eh bien, c'est la première peur de tous les êtres humains. À chaque fois qu'un être humain naît, il fait peur à tous les gens qui sont autour en disant « mais est-ce qu'il va respirer ?» Et puis après, il respire et là, heureusement, on oublie.
Et alors, dans le ventre de la mer, il se passe quoi, alors, finalement?
Eh bien, il n'y a pas de respiration pulmonaire. Ouais. Les échanges d'oxygène et de carbone se font par les échanges sanguins, par le placenta.
Oui. Alors, à partir du moment où on sort, justement, du ventre de la mer, instinctivement, automatiquement,
ça va se mettre en route,
la mécanique se met en place. Alors, le fait de respirer justement en permanence avec notre cerveau, ça fait appel justement à une multitude de fonctions sensorielles aussi. Là, il y a toute une mécanique qui est en place.
Oui. Alors, il y a deux choses. Premièrement, votre cerveau sait en permanence ce que votre corps fait, fort heureusement. Donc ça, c'est des informations sensorielles qui viennent quand les poumons se gonflent, ils changent de volume, ça envoie des messages. Quand les côtes bougent, ça envoie des messages. Une particularité de la respiration, c'est qu'en plus de ça, c'est aussi un instrument pour percevoir l'extérieur. Et donc, votre respiration va vous dire si la température a changé, si l'humidité a changé, s'il y a des odeurs. Parce qu'à chaque fois que vous respirez, il y a de l'air qui passe dans votre système sensoriel extérieur. Donc, c'est à la fois ce qu'on appelle l'interoception, je surveille ce qui se passe à l'intérieur de moi, et l'extéroception, je surveille ce qui se passe autour de moi. Et ça, c'est la respiration.
Alors, tout à l'heure, justement, Thomas Similowski, vous disiez la respiration, donc c'est le cerveau, avant tout, c'est le poste de pilotage, dans le cerveau très ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faut l'entendre, ça, exactement?
Ça veut dire que cette organisation du rythme respiratoire par le tronc cérébral, cet automatisme dont j'ai parlé, j'ai employé à dessein le terme de pilote automatique, et j'espère que je vais pouvoir placer ma suite après.
Oui.
ce mécanisme-là, on le retrouve chez, y compris des invertébrés. Donc cet automatisme respiratoire qui fait qu'il y a une commande et qui fait battre quelque chose, chez les poissons par exemple, va faire battre les branchies. Ce mécanisme est très très ancien. Ce qui est plus nouveau dans l'évolution, c'est que ce pilote automatique, je peux en prendre le contrôle.
Oui. Et ça, c'est, on sait pourquoi, là, justement. Alors, on arrive dans l'évolution à tout d'un coup se dire, si j'ai envie d'arrêter de respirer, je peux le faire à la commande.
On ne sait pas pourquoi. Ouais. C'est un peu un mystère. Et je suis pas biologiste de l'évolution, donc je me lancerai pas dans des grandes théories. Pour autant, je voudrais attirer votre attention sur le dauphin. Imaginez-vous un dauphin, vous nagez très très vite à l'avant d'un bateau, à la proue d'un bateau. Mmh. Et vous allez respirer uniquement quand votre évent va être en dehors de l'eau, pas dans l'eau. Et ça, c'est préparé, donc le dauphin va prendre une inspiration au moment où il fait le bond par-dessus la surface et il inspire. Donc il est capable d'arrêter sa respiration et de commander le moment où il le fait.
En une fraction de seconde.
En une fraction de seconde.
Très très vite.
Nous savons faire ça aussi. Donc il y a peut-être une histoire d'adaptation aquatique à un moment donné, on n'en sait rien. Je veux pas me lancer là-dedans. Je connais les biologistes de l'évolution qui sont déjà en train de convulser en écoutant les
Sébastien Boller, donc dans ce numéro, les pouvoirs de la respiration, il y a toute une partie quand même qui est signée Christophe André, parce que évidemment, c'est aussi le point de départ, c'est la respiration qui procure du bien-être, et vous proposez d'ailleurs des techniques de respiration. Mm-hmm. Donc c'est tout ce fil finalement que vous tissez dans le magazine.
Oui, parce que les cultures les plus anciennes, on remonte au 7e siècle avant notre ère, dans l'Inde. Voilà, il y a 2700 ans, les premières disciplines corps-esprit, qu'on appellerait aujourd'hui, qui essayent d'utiliser les ressources du corps pour influer sur le bien-être de l'esprit, comme le yoga par exemple, dès le départ, c'est des traditions qui ont compris l'impact que peut avoir la respiration sur notre vie mentale. Et c'est partout aujourd'hui dans les disciplines de développement personnel, de méditation, de relaxation. Et dans la bouche d'un psychiatre, effectivement, c'était très intéressant à entendre, Christophe André, qui a été un des premiers à mettre en place la méditation à l'hôpital Sainte-Anne, à qui on a demandé finalement comment ça se passe cette interaction entre le corps et l'esprit. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, et quelles sont les techniques validées? C'est-à-dire qu'on peut entendre tout et n'importe quoi sur comment respirer, à quelle fin, qu'est-ce qui a été cliniquement évalué. Donc c'est ce panorama qui nous dresse un petit peu et qui nous permet de retenir quelques recettes qu'on peut appliquer, qui ont fait l'objet d'études cliniques et qui apportent des bienfaits.
Et des recettes quotidiennes d'ailleurs qui sont très simples et assez faciles à mettre en place.
Très simple.
Très peu de temps et ça change tout.
Ça change tout. La difficulté, et c'est comme toujours, c'est de prendre 5 minutes par jour.
Ouais.
Et ça, on se rend compte que c'est le principal obstacle, parce que les gens se disent, finalement, on respire tout le temps. Donc, pourquoi est-ce que je devrais m'embêter à sacrifier un truc hyper important à mon travail pour prendre le temps de respirer? Non, il faut les prendre ces minutes. Et là, effectivement, il y a quelques gestes très, très simples à faire.
On en parlera avec Guillaume Néry également dans un instant. Il sera avec nous en ligne depuis Papété, lui qui est double champion du monde d'apnée et qui dit qu'apprendre à mieux respirer, c'est apprendre à mieux vivre. Alors, on verra pourquoi avec lui dans quelques minutes. Les questions des auditeurs arrivent sur le site de l'émission. D'abord, Thomas Similowski, avant de vous soumettre ces questions, un petit mot justement sur ces techniques de respiration préconisées dans le cadre de la méditation. Est-ce que vous, en tant que pneumologue, ça vous intéresse?
Bien sûr. Ça m'intéresse d'autant plus que là, on parle de gens normaux qui essayent de se faire du bien psychologiquement à travers leur respiration, mais nous sommes confrontés à des patients chez qui la respiration n'est pas transparente, mais au contraire, j'allais dire douloureuse, mais c'est vraiment le bon mot. Et donc, ces effets positifs qu'on peut avoir chez les gens qui ne sont pas malades des poumons, il est très probable qu'on peut aussi les avoir chez les gens qui ont des difficultés à respirer. Et que ça peut aider. Le lien entre la difficulté à respirer et l'anxiété, c'est un lien intime et permanent, c'est un lien qui va dans les deux sens. Et donc, ça peut certainement jouer. Je voudrais rajouter que, vous y avez fait allusion, on commence à comprendre les mécanismes physiologiques de ces effets. C'est donc pas un fantasme, entre guillemets, c'est donc pas de la science de gourou, c'est de la vraie science. Il y a maintenant des mécanismes neurophysiologiques qui sont bien montrés et qui expliquent pourquoi certaines manœuvres respiratoires vont être calmantes ou au contraire excitantes.
Vous parlez des maladies respiratoires, vous êtes le vice-président de la Fondation du Souffle. On va écouter justement le spot de votre fondation avec la voix de Guillaume Gallienne, qui respire bien lui quand il parle.
Rien n'est plus naturel que respirer. Nul besoin de s'en préoccuper. Mais lorsque la respiration devient un combat, une souffrance, on ne peut plus penser qu'à cela et la vie rétrécit autour de ce souffle qui manque. La Fondation du Souffle se bat pour soulager et prévenir les maladies respiratoires. Sur lesouffle.org, découvrez ses actions pour la recherche et sa lutte pour que notre air reste sain. Le souffle, c'est la vie. Soutenez la Fondation du Souffle sur lesouffle.org.
Voilà, Thomas Similowski avec ses maladies respiratoires. La vie rétrécit hein, quand le souffle n'est plus là. Évidemment, on comprend tous ça. Hein.
Voilà, rien n'a plus d'importance. Hein, c'est bien dit dans le spot. Vous pouvez plus penser à autre chose. On ne pense pas à notre respiration, sauf quand on fait des exercices pour s'en servir, pour se détendre. Mais on n'y pense pas, on ne la sent pas. Et quand ça devient une maladie, on ne peut plus penser à autre chose.
Philippe demande, quelle est l'importance de la vitesse de la respiration? Je mesure 1,94 m et je respire deux fois moins vite que ma femme. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Il y a vraiment une incidence là ou pas?
Oui, il y a certainement des incidences. Alors déjà, avec 1,94 m, sauf si sa femme mesure également 1,94 m, elle a des plus petits poumons que lui. Et elle a quand même besoin de faire rentrer un certain nombre de litres par minute pour évacuer son CO2. Et donc, si ses poumons sont plus petits, pour faire la même ventilation, il faut qu'elle aille plus vite.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions nombreuses pour vous sur franceinter.fr. Et le mot-clé d'attaque sur les réseaux, vous êtes dans la tête au carré, c'est François and the Atlas Mountains.
Puis la nuit. je vais. Oh, toi que j'eusse aimé. Oh, toi qui le savais.
Sur un poème de Baudelaire, François and the Atlas Mountain à une passante.
Bon, fais simplement le vide dans ton esprit. Respire.
La tête au carré.
Voilà, ben respirer, c'est ce qu'on fait cet après-midi avec Cerveau et Psycho, les pouvoirs de la respiration avec mes invités, Sébastien Bollaire, le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, et puis Thomas Similowski, pneumologue et directeur de l'unité de recherche neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique, c'est à l'INSERM. Il y a beaucoup de messages des auditeurs, dans un instant on va retrouver Guillaume Néry qui est double champion du monde d'apnée. Deux questions avant ça, Thomas Similowski. André qui nous dit, on pense en général qu'il est bon de respirer profondément pour mieux oxygéner son sang. Est-ce que ça reste vrai dans des villes très polluées?
Alors, c'est une réponse un tout petit peu compliquée. L'oxygénation du sang ne dépend pas énormément de la profondeur avec laquelle on respire. Mm-hmm. Par contre, lorsqu'on est dans un environnement pollué et toxique, évidemment, plus on respire, plus le nombre de litres qu'on fait rentrer dans l'organisme, plus on fait rentrer de polluants. Il faut avoir en tête qu'une respiration calme d'un adulte au repos, c'est 15 000 litres d'air qui rentre dans les poumons par jour.
Ah oui.
C'est énorme,
donc oui,
ça, ça charrie beaucoup d'oxygène et ça charrie aussi beaucoup de polluants. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle nous, les pneumologues, nous recommandons d'éviter d'augmenter la respiration et donc de faire de l'exercice lorsqu'on est confronté à des environnements très pollués. Donc cette question, c'est la source de la recommandation. Faites pas de vélo rue de Rivoli à 18h le soir.
Ouais. Alors vous disiez tout à l'heure, hein, plus de 10 millions de Français qui ont des problèmes de maladies respiratoires, justement. C'est la pollution atmosphérique qui est en cause très souvent ou pas?
La pollution est un toxique respiratoire indéniable. Elle est cause de maladies, elle est cause de mortalité, elle aggrave les maladies respiratoires. Donc ça c'est indéniable et le combat contre la pollution, surtout les particules fines, est un combat absolument majeur. Mais il ne faut pas oublier que le principal toxique respiratoire auquel beaucoup de gens sont exposés, en France, pratiquement 30% des adultes de plus de 25 ans, c'est la fumée du tabac.
Sébastien Bollaire, vous avez eu envie de faire appel à Guillaume Néry, double champion du monde d'apnée, alors pour ce numéro de Cerveau et Psycho?
Bah oui, parce que c'est l'exemple même de ce que disait Thomas Similowski tout à l'heure. La respiration, on peut la contrôler avec la partie la plus évoluée de notre cerveau, et le contrôle de la respiration parfois atteint des extrêmes. On a eu envie de demander à un champion d'apnée quelle était cette aventure vers le contrôle total de la respiration, et qu'est-ce que ça produit aussi sur le cerveau, parce que des études sur le cerveau de Guillaume Néry, en l'occurrence, ont été menées.
Il a donné son cerveau à la science. Bonjour Guillaume Néry.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes à Papeete et apparemment la liaison est excellente, donc on va pouvoir discuter ensemble tout de suite. Vous êtes donc double champion du monde d'apnée. Votre record officiel, c'est 126 mètres en 2015. Vous êtes resté entre 7 et 8 minutes, durée maximale en apnée statique. Comment vous avez découvert d'abord vos, je ne sais pas si on peut appeler ça un don, mais vos capacités en tous les cas pour l'apnée?
Alors c'est venu un peu par hasard. Je pense que comme tous les adolescents se sont amusés un jour à faire avec un copain, on s'est amusé à se défier tout bêtement, savoir qui pouvait tenir le plus longtemps sans respirer. C'était dans un bus entre le collège et la maison. J'ai perdu ce défi en tenant 1 minute 30 là où lui tenait plus de 2 minutes. Et donc j'ai décidé histoire d'ego, hein, de le battre la fois d'après. Et donc j'ai commencé à m'entraîner dans mon lit. Donc c'était même pas dans l'eau, c'était vraiment un espèce de défi contre le temps. Ouais. Et là, à force de répéter, jour après jour, j'ai réalisé que j'étais capable de tenir de plus en plus longtemps sans respirer. C'était vraiment la découverte de l'adaptation du corps humain. Et rapidement, j'étais capable de tenir sans respirer aux environs des 4 minutes.
Ouais. Et là, vous êtes à 8 minutes aujourd'hui, c'est ça? C'est votre record?
Et voilà, en fait, j'avais 14 ans, j'étais à Nice, au bord de la Méditerranée, et rapidement, j'ai compris que le vrai intérêt de l'arrêt de la respiration, c'était de l'utiliser pour aller explorer ce qu'il y avait sous la surface de la mer. Et là, il y a vraiment eu un vrai coup de foudre, et ce qui m'a intéressé ensuite, derrière, ça a été d'aller explorer les profondeurs, plus que d'aller explorer et plus que de repousser mon temps en apnée. Mais évidemment, avec l'entraînement qui a accompagné toutes ces aventures, j'ai doublé mon temps sur plusieurs années en apnée statique. Mais c'est vraiment l'exploration verticale des profondeurs qui a suscité tout mon intérêt tout au long de ces années.
Vous dites dans Cerveau et Psycho, apprendre à mieux respirer, c'est apprendre à mieux vivre. Alors évidemment, ça nous intéresse tous. Pourquoi est-ce que vous dites ça ?
Ben, rapidement, j'ai compris que si je voulais rester plus longtemps suspendu finalement entre ces deux respirations, ben, il y avait ce moment qui précédait l'apnée qui est extrêmement important. C'est le moment où on met toute notre conscience portée sur la respiration. Et j'ai réalisé finalement que d'apprendre à bien respirer, ça a amené tout un tas de petites choses, de petites adaptations dans ma vie tous les jours, puisque oui, je passe beaucoup de temps sous l'eau, mais je suis aussi un terrien qui passe la majeure partie de son temps sur terre à respirer. Et en fait, avoir conscience de sa respiration, ben, ça permet de pouvoir influencer tout un tas de choses. Ça permet de pouvoir agir sur nos émotions, sur nos états de stress. Et je vous écoutais tout à l'heure, vous parliez de cette respiration qui se fait de manière autonome. Mais finalement, quand on arrive à reprendre le contrôle de cette respiration, on reprend aussi le contrôle sur son corps, on reprend le contrôle sur ses émotions, et on peut finalement amener notre mental, notre esprit un peu dans la direction où l'on a envie. Et quand on prend conscience de ça, c'est vrai que la respiration, c'est un outil qui n'a aucune limite, et c'est utilisable par tout le monde dans le quotidien. Et d'un point de vue thérapeutique, je pense qu'il y a vraiment plein de portes à ouvrir et plein de choses à découvrir.
Alors, il y a plein de réactions autour de cette table. Sébastien Bollaert qui a envie de réagir, justement.
Ah oui, je trouve ça fascinant, cette phrase. Comme quoi, on s'adapte, finalement, le cerveau s'adapte. On le voit en imagerie cérébrale. D'ailleurs, c'était vous qui nous le disiez, je crois, dans l'article de Thomas Similowski, c'est que quand on développe sa respiration diaphragmatique, donc le diaphragme, c'est cette paroi qui sépare les poumons des viscères, et on apprend à baisser comme ça les poumons pour dilater les parties inférieures des poumons. Dans le cerveau, il y a une partie du cerveau, du cortex moteur, qui sert à contrôler les mouvements du diaphragme, et on voit qu'elle a tendance à se développer au fil de l'entraînement, par plasticité cérébrale. Donc c'est vraiment une véritable adaptation au niveau des neurones. Et puis l'autre chose qui est fantastique, c'est comment reprendre le contrôle de son corps, et par ricochet, le contrôle de ses émotions aussi. Et c'est là qu'on rentre dans un mécanisme que je trouve absolument unique dans notre constitution biologique, c'est qu'en fait, quand on se force à respirer profondément, on provoque une activation d'une certaine partie de notre système nerveux, qui s'appelle le système parasympathique, qui est un système apaisant, et qui ensuite donc a un effet apaisant sur les divers organes, dont le cerveau. Donc c'est un va-et-vient, le cerveau force les poumons à respirer profondément, ce qui active le système parasympathique, ce qui en retour provoque des adaptations au niveau émotionnel, un apaisement, et donc c'est une façon de se contrôler soi-même, comme le dit Guillaume Néry.
Thomas Similowski, vous qui êtes pneumologue, qui donc avez affaire à des maladies respiratoires, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous entendez justement un champion d'apnée? Parce que là, on est quand même dans un autre domaine aussi. Hein.
Alors, avant de vous répondre, j'aimerais lui poser une question.
Allez-y.
À la fin de vos apnées, est-ce que vous ressentez l'envie de respirer? Ou finalement, quand vous émergez à la surface et que vous reprenez votre souffle, c'est quelque chose que vous faites volontairement, mais que vous n'en aviez pas particulièrement envie?
Guillaume Néry.
Alors, ça dépend de quel type d'apnée on parle. Des apnées récréatives, comme je peux faire là en ce moment en Polynésie, des apnées où je vais m'immerger pour aller rencontrer les baleines, où je vais pas forcément chercher à aller proche de mes limites. Là, on peut faire une apnée et ressortir, et puis reprendre finalement presque une respiration normale sans en avoir vraiment envie. Par contre, quand on va faire une apnée qui est engagée, que ça soit en profondeur ou en temps, là oui, à un moment donné, on doit gérer cette envie de respirer qui s'installe, et on doit arriver à prendre le contrôle et à maîtriser cette envie de respirer. Et cette envie de respirer, à la base, elle vient parce qu'il y a beaucoup de CO2 qui s'accumule dans l'organisme, et non pas parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc à partir du moment où on sait, on a cette information, derrière c'est toute une gestion et une accoutumance. Et c'est vrai, je ne vais pas mentir, il y a un moment pendant cette apnée, vers la fin de l'apnée, qui est moins agréable que le début de l'apnée. Le début de l'apnée, c'est une forme vraiment de plénitude. On a on ne respire pas et on n'a aucune envie de respirer. Et sur la faim, c'est vrai qu'il faut arriver à apprivoiser cette envie de respirer qui s'installe, qui devient de plus en plus présente. Et puis, il faut surtout bien se connaître. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est avec la pratique, avec l'entraînement et avec une approche très, très douce, très, très lente, que l'on sait le moment où on doit retourner à la surface, où on doit reprendre notre vie aérienne, où on va reprendre la respiration.
Thomas Simbiowski.
Donc, du coup, maintenant, je peux répondre à votre question sur les patients.
Ouais.
Notre ami plongeur, il a une chance extrême, c'est-à-dire que il a pas envie de respirer, et puis à la fin, au bout de 8 minutes, il a un peu envie. Et bien, un patient qui a une maladie respiratoire, cette envie-là, il l'a très fort, et tout le temps, sans même s'être arrêté de respirer. Il faut que l'air revienne la prochaine fois, et c'est une préoccupation constante.
Dernière question, Guillaume Méry, vous avez donné votre cerveau à la science, et à Steven Loris en particulier, qui est neuroscientifique en Belgique. Qu'est-ce qu'il a vu de particulier dans votre cerveau?
L'idée, je vais pas rentrer trop dans les détails, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, Steven Loris s'intéresse au fonctionnement du cerveau en général, c'est un spécialiste du coma, et il voulait voir comment fonctionne le cerveau de personnes qui ont une activité un peu différente de la normale. Je sais qu'il avait étudié le cerveau de Mathieu Ricard précédemment, et là, il voulait faire des expérimentations pour voir si la maîtrise de la respiration dans un premier temps et ensuite l'arrêt de la respiration modifiait le fonctionnement du cerveau. Il a voulu aussi voir si la pratique, après 20 ans de pratique intensive de l'apnée en compétition à battre plusieurs records du monde, ça avait pu avoir une influence négative sur mon cerveau, parce que c'est un lieu commun de dire que quand on fait de l'apnée, on prive son cerveau d'oxygène et donc on l'endommage. Et donc les résultats ont été très clairs. Hein. J'ai passé plusieurs heures enfermé dans un IRM, et on a fait un IRM fonctionnel pour aller vraiment analyser les recoins du cerveau, et on aurait pu voir la moindre petite cicatrice d'une lésion, d'une nécrose suite à un accident ou à une apnée un peu trop poussée. Et ces conclusions ont été nettes. Il n'y a absolument aucune séquelle et aucune cicatrice. Donc, j'en avais la conviction, mais c'était intéressant d'avoir cette validation scientifique qui montre que la pratique de l'apnée, quand elle est bien faite, et même quand elle est faite avec un objectif de compétition, ne va pas endommager le cerveau.
Et Steven Loris dit que votre cerveau s'active comme celui d'un grand méditant, justement, pour prendre la comparaison avec Mathieu Ricard. Thomas Simbiowski, très rapidement pour finir sur cette séquence.
Alors, deux choses. Vous avez remarqué, j'ai attiré votre attention en utilisant ma respiration. Pendant que Guillaume parlait et que vous lisiez votre papier, j'ai pris un grand soupir pour que vous me regardiez. Donc, vous voyez, la respiration, c'est un outil de communication. C'est un outil de communication. Je voulais juste dire que l'activation du cerveau de Guillaume Néric a été montrée dans l'IRM fonctionnel. Elle est très prépondérante sur un circuit qu'on appelle le circuit par défaut, qui est le circuit cérébral qui est actif lorsque vous n'êtes pas actif, lorsque vous les laissez aller, vous ne pensez à rien. Ça, c'est très important. C'est un moment où le cerveau est libre. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Et nous, ce que nous avons montré chez des patients, c'est lorsque la respiration est contrainte, ce circuit-là, il se désactive complètement. Et donc, la liberté que vous avez, la liberté d'association, de laisser vagabonder votre cerveau, vous allez en être privé si votre respiration est difficile.
Ouais. Et on voit dans Cerveau et Psycho, justement, les photos de votre cerveau, qui est vraiment étonnant, justement, Guillaume Néry, avec toute la manipulation qui a été faite autour de vous. Et c'est donc dans Cerveau et Psycho ce mois-ci. Merci beaucoup. Bonne plongée récréative à pas péter. On vous envie évidemment beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on poursuit la discussion dans un instant avec les auditeurs. La suite de ce dossier sur la respiration, avec beaucoup de questions pour vous sur franceinter.fr. À bientôt, Guillaume Néry. Merci.
Merci, au revoir.
Sur la planche, c'était la femme.
La tête au carré. Sur France Inter.
Allez, nous aussi, on reprend notre souffle pour ces 10 dernières minutes avec Thomas Similowski et Sébastien Boller pour parler donc des pouvoirs de la respiration et puis des maladies liées évidemment aux problèmes respiratoires. Thomas Similowski, juste un petit mot sur l'apnée encore, parce que vous avez eu beaucoup de patients après le film Le Grand Bleu et beaucoup d'accidents en particulier. Donc l'apnée, il faut faire très très attention à ça, hein, pour ceux qui sont en train de nous entendre, qui se disent tiens, finalement, ce champion d'apnée, il a l'air de dire que la vie est plus agréable quand on respire bien.
Il faut être extrêmement prudent. On a fait effectivement dans les à la fin des années 80, j'étais jeune chef de clinique en réanimation, on a eu plusieurs noyades sur des apnées trop prolongées, des pertes de conscience.
Et ça dans des baignoires, hein, c'est ce que vous me disiez.
Y compris dans des baignoires.
Incroyable. Alors, les maladies justement de la respiration, la dyspnée par exemple, qu'est-ce que c'est exactement ?
La dyspnée, c'est ce qu'on appellerait en langage commun l'essoufflement. La dyspnée, c'est vous sentez que vous respirez, on a vu tout à l'heure que c'était pas normal, mais en plus ça vous inquiète. Donc vous avez la conjonction d'une quelque chose de sensoriel, je sens ma respiration.
C'est douloureux ?
C'est l'équivalent d'une douleur. C'est beaucoup de, certains patients le disent d'ailleurs, ma respiration me fait mal. Donc c'est à la fois je sens que je respire et ça m'inquiète. C'est le symptôme de toutes les maladies respiratoires.
Donc c'est vraiment cette impression de ne pas avoir assez d'air.
Avoir assez d'air, de faire un effort pour respirer, il y a tout un vocabulaire. Et c'est le déterminant du handicap dans les maladies respiratoires. C'est ça qui fait souffrir les gens. Et à tel point que, et on parlait de cerveau, le cerveau en est modifié. Un patient qui a une maladie respiratoire chronique, qui est facilement essoufflé, le fait de regarder un escalier, d'entendre le mot escalier, ça va activer dans son cerveau les zones de la dyspnée, il va commencer à souffrir alors qu'il est toujours dans son fauteuil à regarder son escalier.
Ouais. Et dans le dossier, vous dites qu'il y a des impacts très forts sur, par exemple, les performances cognitives aussi.
Alors, il y a deux types d'impacts. Il y a un impact d'abord psychologique qui est le plus important. Ça angoisse, ça fait peur, ça déprime. Donc ça va changer la vision que vous avez de la vie. Vous allez être obligé de changer votre vie pour pouvoir continuer à fonctionner. Et le deuxième impact, qui est tout récent, on y faisait allusion avec Guillaume Néré tout à l'heure, c'est l'activation respiratoire. Elle va rentrer en compétition avec des tâches cognitives. Je vous donne juste un exemple. Dans notre labo, on a montré que si je rends quelqu'un expérimentalement dyspnéique, donc je rends sa respiration difficile en le faisant respirer au travers d'un machin, on va dire un machin pour aller plus vite, eh bien sa capacité à faire un tout petit test très simple comme je me lève, je fais trois pas, je fais demi-tour et je viens me rasseoir, eh bien plus il va être essoufflé, moins il va être capable de faire ce test correctement. Pire, quand il va s'imaginer faire ce test, il va être moins rapide dans sa tête. À cause de l'essoufflement.
Incroyable. Alors aussi, quand on voit quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire, on est soi-même gêné dans sa propre respiration. Il y a une espèce d'effet miroir. Hein.
Absolument. Comme pour la douleur. De la même façon, voir quelqu'un qui a du mal à respirer, ça vous met mal à l'aise.
Alors d'autres syndromes, celui par exemple qui s'appelle le syndrome d'Ondine, là c'est une maladie génétique très rare, on peut en dire également un petit mot.
Maladie génétique très rare, des patients qui ont une mutation qui fait que ces centres automatiques dont on parlait tout à l'heure sont mal développés, fonctionnent mal. Et lorsque ces patients dorment, eh bien ils arrêtent de respirer. Ils sont obligés d'être ventilés artificiellement quand ils dorment. Et de façon très étonnante, quand ils sont éveillés, ça marche. Ce qui veut bien dire que l'autre cerveau, entre guillemets, le cortex cérébral, va contribuer à la respiration.
Ils doivent presque respirer exprès. En
fait. Alors, fort heureusement, il y a de la plasticité, il y a de l'automatisation. Ils sont pas obligés de penser en permanence à respirer. Ouais. Mais ils vont avoir une respiration qui va venir de leur cortex cérébral, mais qui va finalement être automatisée. Donc, de jour, ils n'y pensent pas. Mais s'ils font un truc très concentré, un jeu à l'ordinateur ou du calcul mental, ils vont s'arrêter de respirer et leur oxygène va baisser dans le sang.
Donc il y a une assistance respiratoire dans ces cas-là ?
Alors,
la nuit en particulier ?
Alors la nuit, oui, il y a une assistance respiratoire.
Alors les questions des auditeurs, elles sont nombreuses. Serge, pardon, demande d'abord ceci. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la totalité du volume de nos poumons ?
Alors,
monsieur le pneumologue.
Une question très intéressante. Parce que fort heureusement, on n'en a pas toujours besoin. Donc, quand on respire de façon calme, on a besoin d'environ 10% du volume de nos poumons. Quand on fait un exercice, quand on est à fond sur son vélo d'appartement, on va être à 80%. Et il va rester quelque chose en plus. Le quelque chose en plus, c'est très probablement utile parce que même si vous faites sur votre vélo d'appartement l'effort maximum que vous pouvez, vous pouvez quand même répondre au téléphone. Et donc, vous allez pouvoir perturber votre ventilation, utiliser un petit surplus pour faire, avec le contrôle volontaire, quelque chose en plus du contrôle automatique très fort. Donc il y a cette immense réserve d'air, on ne sait pas vraiment pourquoi elle n'est pas utilisée normalement, mais en tout cas, on sait à quoi elle sert. Elle sert à prendre le contrôle, même lorsque la respiration est à son maximum automatique.
Sabine nous dit, un ami neuropsychologue dit que 80% des gens respirent principalement par le haut des poumons, ce qui est le résultat d'un état stressé et maintient un état de stress. Qu'en pensez-vous ? Alors, on devrait respirer par le quoi ? Plutôt en utilisant le diaphragme ou...
Alors, on ne respire pas comme on veut, on respire comme on a fabriqué sa respiration avec la croissance. Donc, quand vous marchez, je vous reconnais dans la rue à votre démarche. Quand vous respirez, vous avez une signature locomotrice de la même façon. Et la majorité des gens respirent avec leur diaphragme. Évidemment, cette notion de « je respire avec le haut, je respire avec le bas », elle est très très répandue. Mm-hmm. Elle ne repose pas sur beaucoup beaucoup de science.
Donc, pas lieu de s'inquiéter a priori.
Pas lieu de s'inquiéter a priori. Attention, dans une période relativement récente dans l'histoire de l'humanité, les femmes pouvaient porter des corsets. Si vous portez un corset bien serré, vous allez bloquer votre diaphragme. Et là, forcément, vous allez respirer avec le haut. Donc, il y a des circonstances, il y a des situations qui peuvent changer la respiration et ça peut être délétère.
Sébastien. C'est vrai que notre société est quand même un petit peu obsédée par le ventre plat. C'est quand même un canon de beauté. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour avoir un ventre plat. Et beaucoup de gens, simplement par imprégnation de ces normes sociales, rechignent à relâcher leur ventre. Parce que si on relâche son ventre, on a l'impression de perdre sa silhouette. Et en fait, c'est une fonction physiologique essentielle de respirer à la fois avec le haut et avec le bas. Mais il y a quand même des anthropologues qui ont fait remarquer que dans les sociétés orientales, on a un peu plus tendance à accepter de respirer par le bas que chez nous. On se tient droit, on bombe le torse aussi. Hein.
Thomas Similewski, puisqu'on est à la radio ici, vous me disiez hors antenne, j'aimerais bien parler du fait et de l'association entre le fait de parler et le fait de respirer.
Oui. Ben vous pourriez pas faire votre métier si vous n'aviez pas la capacité de contrôler votre respiration. Quand on parle, on est toujours en train de vider les poumons. On ne parle qu'à l'expiration. Et donc, vous avez deux mécanismes qui vont se faire. Le premier, c'est pendant la phrase, celle que je suis en train de prononcer là, j'empêche mon système automatique d'inspirer, je ne veux pas qu'il me coupe la parole. Et la deuxième chose, c'est si je veux faire une phrase vraiment très très longue sans être interrompu et continuer à parler comme ça, sans que la voix diminue et sans avoir changé, eh bien il faut que j'ai pris avant un grand volume respiratoire. Vous voyez, ma voix n'a toujours pas changé, je l'avais prévu et j'avais pris une inspiration volontaire avant de faire ma phrase.
Donc les hommes politiques savent bien respirer alors.
Hein, et les joueurs de saxophone.
C'est très difficile d'en placer une pendant une interview avec un homme politique. Merci beaucoup. Il y a énormément de questions des auditeurs. Il faudrait faire une deuxième émission sur le sujet parce que vraiment c'est passionnant. Il y a plein de choses à dire. En tout cas, on renvoie évidemment les auditeurs de La Tête au Carré vers ce numéro de Cerveau Psycho qui est dans les kiosques en ce moment, qui s'appelle Les Pouvoirs de la Respiration. Tous les aspects physiologiques évidemment sur la méditation, le bien-être, des techniques de respiration par Christophe André, comment le souffle synchronise le cerveau et dissipe le stress. Merci Thomas Similewski. La Fondation du Souffle, c'est sur le site de La Tête au Carré, c'est pour avoir l'adresse mail et vous joindre. Merci beaucoup Sébastien Boller.
Merci Mathieu.
À bientôt.